à Washington.
Bonsoir, il est 17h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du Monde aujourd'hui. Eric Manilakiza avec vous. D'abord, les titres de cette édition de ce mercredi 7 août 2019. Les pays du lac Tchad appelés à mieux coordonner leurs renseignements contre les groupes djihadistes. Alassane Ouattara, le président ivoirien, maintient le suspense sur son éventuelle candidature à la présidentielle en 2020. Des consultations formelles en RDC pour former le premier gouvernement de l'ère Tshisekedi et les indigènes au Cameroun veulent protéger et conserver leur langue. Le président Donald Trump se rend à Dayton et à El Paso après des fusillades meurtrières ce week-end. Également, la Minute Écho et les sports dans 10 minutes après le journal. Les pays du lac Tchad et leurs alliés doivent mieux coordonner les renseignements pour lutter efficacement contre les djihadistes, ont estimé des responsables des services de renseignement de la force multinationale lors d'une rencontre à Niamey. Les précisions de Nathalie Barge.
Ensemble, nous pourrions mieux faire progresser notre compréhension des menaces, a estimé lors de cette rencontre la contre-amirale américaine Heidi Berg. Le Cameroun et le Tchad ont élargi leur capacité de collecte d'informations grâce à des aéronefs Cessna 208 offerts par les États-Unis, bien que chacun ait adopté une approche différente sur leur utilisation, a-t-elle précisé. Pour le Tchad, ces avions ont permis ces derniers temps de traiter certaines positions de l'ennemi. Les pays concernés doivent exploiter des plateformes de collecte contre des ennemis régionaux que sont les groupes extrémistes violents de la région du lac Tchad, a relevé Madame Berg. Vendredi dernier, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, avait regretté que les djihadistes fassent preuve de résilience en dépit des opérations militaires.
Nathalie Barge. Le président ivoirien Alassane Ouattara maintient le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Le pays célèbre aujourd'hui le 59e anniversaire de son indépendance. Abdulrahman Dia.
Le président ivoirien a indiqué lors d'une interview à la télévision d'État qu'il ferait savoir sa décision l'année prochaine. Je vais prendre ma décision au moment opportun et sur la base de ce que mon parti me dira de faire, a déclaré Alassane Ouattara, qui achève son deuxième mandat en 2020. Mais il estime que la constitution adoptée en 2016 lui permet de faire deux autres mandats. Cependant, d'autres contestent la possibilité pour lui de se représenter. J'aurai 78 ans l'année prochaine. Mes médecins me disent que je suis en parfaite santé, a ajouté Alassane Ouattara, qui note que son principal rival politique, l'ex-président Henri Konan Bédié, a 10 ans de plus que lui. Nous devrions réfléchir à ce que nous pouvons donner à notre pays au-delà d'un certain âge. Je veux la stabilité de mon pays et la sécurité des Ivoiriens, a souligné le président, insistant sur son bilan économique. Le scrutin présidentiel cristallise déjà le débat politique à 14 mois de l'échéance.
La société canadienne IAMGOLD et sa canée, première productrice d'or au Burkina Faso, la société française Bolloré Transport et Logistique, et 12 personnes ont brièvement comparu aujourd'hui devant la justice pour fraude en matière de commercialisation d'or et blanchiment de capitaux. L'audience a été renvoyée à début octobre, quelques heures seulement après son ouverture. Deux soldats gambiens ont été condamnés aujourd'hui à 3 ans de prison par une cour martiale pour avoir évoqué le renversement du président Adama Barrow, a-t-on appris auprès de l'armée et de leurs avocats. Les deux soldats ont été reconnus coupables et condamnés à 3 ans d'emprisonnement pour diverses activités criminelles. Le portrait de l'ex-président Yahya Jammeh, qui figurait sur tous les billets de banque en Gambie, a disparu des nouvelles coupures mises en circulation cette semaine, 2 ans et demi après son départ du pays. La Banque centrale a commencé hier à distribuer les nouveaux billets de 50, 100 et 200 dalassi, la monnaie locale. Le premier ministre de la RDC, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a entamé aujourd'hui des consultations formelles en vue de la formation du gouvernement. Les précisions avec Ekia Badou.
Pour le premier jour, les délégués de Cap pour le changement, la coalition des partisans du président Félix Tshisekedi et ceux du Front commun pour le Congo de son prédécesseur Joseph Kabila ont été consultés par le premier ministre. Ce dernier compte intégrer des personnalités qui ne font pas l'objet de condamnations judiciaires fermes en République démocratique du Congo ou ailleurs, et doser anciennes et nouvelles figures et générations montantes. Le 10 août, toutes les listes reprenant les noms de 3 candidats pour chacun des 65 postes seront centralisées par le Premier ministre avant d'être présentées au chef de l'État pour nomination. Parmi les critères mentionnés figurent compétence, intégrité, capacité de travailler en équipe et capacité de travailler sous l'autorité du Premier ministre. Fin juillet, le FCC et CACH avaient signé un accord de gouvernement après de longues tractations, attribuant au pro-Kabila 42 postes ministériels contre 23 au pro-Tshisekedi.
L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé la fourniture de 540 000 tonnes de blé au Soudan en concrétisation de leur promesse d'aide à ce pays après l'éviction du président Omar el-Béchir. L'instance devant mener en Algérie le dialogue de sortie de crise s'est réunie aujourd'hui pour la première fois avec des militants du Irak, le mouvement de contestation inédit déclenché en février. L'instance nationale de dialogue et de médiation est chargée par le pouvoir algérien de conduire les consultations pour définir les modalités de la future présidentielle devant élire un successeur au président déchu Abdelaziz Bouteflika qui a démissionné le 2 avril. En Tunisie, le parti Ennahda, principale force au Parlement, a présenté son candidat à la présidentielle anticipée du 15 septembre, une première dans l'histoire de cette formation. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le conseil consultatif du parti a voté à une majorité de 98 voix en faveur de la candidature d'Abdel Fattah Mourou à l'élection présidentielle, a déclaré le parti Ennahda dans un communiqué. Abdel Fattah Mourou, 71 ans, est chef du Parlement par intérim depuis que son prédécesseur Mohamed Ennasser est devenu président par intérim après le décès du président Bedi Kaïb Essebsi à 92 ans. Connu pour sa modération, Abdel Fattah Mourou est l'un des membres fondateurs d'Ennahda aux côtés de Rachid Ghannouchi. Le parti a été fondé en 1981. En 2011, après la révolution qui a chassé Zine El Abidine Ben Ali du pouvoir, Ennahda a remporté les législatives. Avant le décès du président Essebsi et le bouleversement du calendrier électoral, Ennahda était réticent à l'idée de présenter son propre candidat à la présidentielle. Le premier tour de la présidentielle est prévu le 15 septembre et les législatives le 6 octobre. Les candidats à la présidence ont commencé à déposer leurs dossiers depuis le 2 août. Pour le moment, 27 candidats ont fait acte de candidature.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a rendu visite aujourd'hui à des blessés de la fusillade ce week-end à Dayton dans l'Ohio, avant de s'envoler pour le théâtre d'une autre tragédie, El Paso, au Texas. Le président est arrivé en fin de matinée avec son épouse Melania à Dayton et s'est immédiatement rendu dans un hôpital où sont soignées certaines des victimes. Des centaines de manifestants ont brandi des panneaux exhortant le président républicain à s'opposer à la NRA, le puissant lobby des armes qui bloque toute tentative de réguler le marché des armes à feu et à interdire les fusils d'assaut. Donald Trump a affirmé qu'il n'y avait pas assez de soutien politique pour interdire la vente de fusils d'assaut. Il a en revanche affirmé qu'il soutenait l'adoption d'une loi qui empêcherait les personnes souffrant de troubles mentaux de pouvoir acquérir des armes. Le président américain Donald Trump a de nouveau mis la pression maximale sur la banque centrale américaine Fed. Dans une longue série de tweets aujourd'hui, Monsieur Trump exige la Fed de réduire les taux plus vite, plus fort et la traitant d'incompétente. C'est au moment où les négociations commerciales avec Pékin piétinent et que les marchés financiers vacillent. Un attentat, la voiture piégée revendiquée par le groupe État islamique, a tué 5 personnes hier, dont 3 enfants, dans une ville contrôlée par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. En Afghanistan, un attentat à la voiture piégée revendiqué par les talibans a fait au moins 14 morts et 145 blessés, dont une majorité de civils ce matin dans l'ouest de Kaboul. Le Cachemire indien a connu son 3e jour de blackout total imposé par les autorités indiennes qui veulent éviter un embrasement après la révocation de l'autonomie de cette région troublée. En silence pesant a régné sur la ville de Srinagar, capitale du Jammu et Cachemire dans le nord de l'Inde, seulement perturbée par quelques tirs sporadiques et le grondement des véhicules blindés. De soldats en armes étaient en faction devant des rouleaux de barbelés. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique, vous retrouvez Nanit Talani.
La Guinée retarde la date limite pour la soumission des projets du gisement de minerai de Simandou. Cette décision vise à renforcer la concurrence pour le plus grand gisement de minerai de fer non exploité au monde. Les entreprises ont jusqu'au 2 août pour présenter leurs offres, maintenant que certains problèmes juridiques ont été résolus. Simandou contient du minerai de fer à haute teneur très recherché, car son traitement crée moins de pollution que le minerai à plus faible teneur. La Banque africaine de développement a approuvé une subvention de 98 millions de dollars pour l'Éthiopie pour un corridor de transport routier à destination de Djibouti. La BAD donnera aussi une subvention de 5,3 millions de dollars pour Djibouti. Le gouvernement éthiopien cofinancera à hauteur de 151 millions de dollars pour ce projet, dont le coût total s'élève à 255 millions de dollars. Terminons cette minute éco par l'Arabie saoudite qui a versé 250 millions de dollars à la Banque centrale soudanaise. Le dépôt fait partie d'un paquet avec les Émirats arabes unis d'une valeur de 500 millions de dollars annoncée en avril. Les deux pays ont promis une aide de 3 milliards de dollars au Soudan. C'est un prêt qui vise à réduire la pression sur la livre soudanaise et à stabiliser son taux de change. Les fonds financeront aussi les prix du carburant, les médicaments et du blé. L'augmentation du prix du pain a été à la base de la révolte populaire qui a abouti au renversement du président Omar el-Béchir.
Et nous passons directement à votre page des sports, c'est Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
En football, on parle de la démission de Florent Ibenge.
Oui, l'entraîneur congolais surnommé coach Android a annoncé sa démission du poste de sélectionneur des Léopards après une rencontre avec le président de la Fédération congolaise de football, Constant Omari. Plus de détails avec Bagasekura.
Sous la sellette depuis l'élimination des Léopards par Madagascar en huitième de finale de la récente CAN en Égypte, Florent Ibenge vivait ses derniers moments comme sélectionneur de la RDC. Il avait même déclaré que le match face au Bareas était peut-être son dernier. Le technicien congolais dit partir sans pression.
Il n'y a aucune pression de ma part. Je le fais volontiers. Je le fais comme c'était prévu. La première réunion il y a 5 ans avec mon staff, je leur ai dit que je n'allais pas rester longtemps. Dès le départ, ils savaient que c'était ma dernière CAN.
En tête des Léopards depuis 2014, Florent Ibenge a terminé 3e de la CAN 2015. Il a aussi été quart de finaliste en 2017 et a remporté le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2016. Coach Android, comme on l'appelle, dit toujours être à la disposition du football congolais.
Je reste toujours à la disposition parce que le président m'a proposé aussi d'autres postes. Donc on va regarder ça tranquillement. Le plus important, encore une fois, c'est la RDC. Que la RDC gagne, elle est toujours dans mon cœur et le restera toujours.
Florent Ibenge est aussi l'entraîneur de l'AS Vita Club, d'après Top Congo FM, notre station partenaire, alors que les Dauphins Noirs livrent un match ce week-end face à l'US Lumo au Cameroun dans le cadre du tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le club de Kinshasa s'est envolé sans son entraîneur principal. Le secrétaire général de V-Club, Patrick Banishai, a nié toute éventualité de rupture entre sa formation sportive et son entraîneur. Il a plutôt évoqué un congé sollicité par Ibenge.
Yacouba, la nouvelle vient de tomber. L'Espérance de Tunis déclarée vainqueur de la Ligue des Champions.
Oui, après des heures de réunion de la commission de discipline présidée par le Sud-Africain Raymond Hack, la CAF a déclaré perdante de la finale retour par forfait le club marocain du Wydad Casablanca, donnant ainsi le titre à l'Espérance Tunis au terme d'une longue bataille de procédure. Les Marocains sont sanctionnés pour avoir abandonné le match retour le 31 mai pour protester contre une panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Le verdict s'est basé uniquement sur le rapport de l'arbitre Papa Bakary Gassama. Le WAC perd son match retour contre l'Espérance de Tunis à Rades. Il devra aussi payer une amende de 20 000 dollars pour abandon de match et une autre de 15 000 dollars pour usage de fumigène. Quant à l'Espérance de Tunis, son président Hamdi Medeb écope d'une amende de 20 000 dollars à cause de son comportement envers le président de la CAF. Les Tunisiens devront aussi jouer 2 matchs à huis clos.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Merci Yacouba. À demain.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
de retour avec vous, Eric Manilakiza, pour aborder les dossiers du jour. La Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui les 59 ans de son indépendance. À l'occasion, le président ivoirien a accordé une interview à la télévision ivoirienne. Alassane Ouattara a maintenu le suspense sur son éventuelle candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Plus de précisions avec Aïcha Diarra.
En lieu et place de la traditionnelle adresse à la nation, c'est une interview que le chef de l'État a accordée à la télévision nationale. Sera-t-il candidat pour un troisième mandat? À cette question, le président ivoirien ne donne pas de position claire. Il a préféré tout simplement éluder cette question.
La traduction du pays, c'est à travers le RHDP qui verra qui ils veulent comme candidat. Si on me le demande, je pourrais répondre positivement ou négativement en fonction de ma conscience. Mais je vais faire un bilan à la fin de 2019 et à partir de là, je prendrai ma décision à mon âme et conscience pour donner le meilleur à mon pays.
Quant à la réforme de la CEI, la commission électorale qui est contestée par une partie de l'opposition ivoirienne, le président Alassane Ouattara trouve que l'heure n'est plus assez disputée parce qu'il faut des institutions pour aller aux élections présidentielles qui sont déjà proches.
Nous avons les élections en 2020. On ne peut pas continuer de discuter. Il faut quand même des institutions et ceux qui remettent en cause la CEI actuelle, ils oublient que nous avons fait des élections en 2015. La CEI actuelle, elle a fait du très bon travail. Alors, c'est cette CEI qui était déjà très bonne que nous venons de reformer en diminuant la part de l'État. Mais écoutez, si on est de bonne foi, on doit trouver que c'est une amélioration.
Parlant de la cicatrisation des plaies des Ivoiriens suite à la crise qu'ils ont connue, le président ivoirien parle des efforts du gouvernement.
Mais il faut que les politiques aussi arrêtent d'attiser la haine et la mésentente. Oui, mais vous savez, en France, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu 40 ans pour que les choses se règlent. Il ne faut pas qu'on dise qu'à la Côte d'Ivoire, en 8 ans, en 10 ans, on puisse régler tous ces problèmes qui ont été créé depuis la mort du premier président. Le président Félix Houphouët-Boigny, ça prendra du temps.
Et que pense le président ivoirien de la rencontre entre ses prédécesseurs Henri Konan Bédi et Laurent Gbagbo? Alassane Dramane Ouattara dit ne pas se sentir concerné.
J'ai eu un problème avec Henri Konan Bédi. Nous nous sommes expliqués et nous avons même formé une alliance. Le fait qu'il décide de sortir de cette alliance, mais écoutez, c'est sa décision. Que les autres sont restés avec Laurent Gbagbo, j'ai jamais eu de problème. On a eu toujours des relations fraternelles et amicales. Quand j'ai vu que Jeune Afrique dit que j'ai essayé par tous les moyens d'empêcher, j'ai dit mais de quoi je me mêle.
En somme, le président ivoirien se dit satisfait du bilan de ses 8 ans d'exercice à la tête de la nation ivoirienne. Aïcha Diarra Abouaké pour VOA Afrique.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Au Nigeria, l'arrestation le week-end dernier du leader de Revolution Now ou encore La Révolution Maintenant alimente la polémique après une série de manifestations. Les manifestants exigent la fin de l'insécurité, mais les autorités fédérales les qualifient de traîtres. Cette affaire suscite beaucoup de réactions dans le pays, comme le dit Gilbert Tamba depuis Abuja.
Omoyele Sowore, candidat malheureux à la présidentielle du 23 février dernier, a publié une vidéo qui a provoqué la colère des autorités fédérales. Dans cette vidéo, le directeur de publication du site d'information Sahara Reporters appelle à une série de manifestations dans tout le pays. Cet appel est perçu autrement par les autorités à Abuja. Ils accusent l'opposant d'avoir appelé au soulèvement, donc à la révolution, pour renverser le gouvernement. Oge Novo Otemu, avocat nigérien, a regardé la vidéo.
In this case, there is a clear call.
Dans cette affaire, il y a clairement un appel à un soulèvement et non à une manifestation. Il y a une différence entre une manifestation, un appel à manifester pacifiquement et un appel à un soulèvement ou une révolution. L'appel de Sowore, dans ce cas, c'est un soulèvement ou pour mieux dire une révolution avec une intention claire de renverser le gouvernement. C'est cet appel qui crée des problèmes à Sowore.
C'est aussi l'avis de la présidence nigériane qui estime que la coalition pour la révolution de M. Sowore veut tout simplement renverser le gouvernement. Par conséquent, il est arrêté et détenu au département des services de sûreté de l'État. Les manifestations annoncées à travers le pays ont été dispersées au gaz lacrymogène par la police dans plusieurs États du pays. Pour la société civile, les Nigériens ont le droit de manifester et de demander pacifiquement des comptes au gouvernement fédéral. Kola Oulé-Banvo était militant et consultant indépendant pour le développement.
Les gens ont le droit de manifester, mais nos services de renseignement devraient chercher à savoir si la manifestation serait violente avant d'agir comme ils l'ont fait. En plus, la vérité est qu'il n'y avait pas de violence lorsque la manifestation a commencé dans plusieurs endroits. C'est la police qui a commencé à lancer des gaz lacrymogènes et autres. Cela indique qu'il n'y avait aucun problème et tout avait été planifié. Seulement, c'est la manière avec laquelle le gouvernement a réagi qui a provoqué l'escalade.
L'opposition nigériane condamne également la répression des manifestations par les forces de sécurité et l'arrestation de Sowore. Yabagi Yusuf Sani, du parti ADP, est ancien candidat à la présidentielle de février 2019.
Je pense que c'est mieux pour le gouvernement de le libérer à moins qu'il dispose d'autres informations contre lui que le public ignore. Les autorités disent qu'il est accusé de trahison, mais c'était une surprise pour moi parce que jamais dans l'histoire de ce pays ou dans d'autres démocraties, une simple manifestation est considérée comme une trahison.
Pour la première fois depuis son arrestation vendredi dernier, Omoyele Sowore a rompu le silence ce mardi en exhortant les Nigériens à descendre massivement dans les rues pour protester contre la mauvaise gouvernance. Il doit comparaître devant un juge demain jeudi à Abuja et le département des services de sécurité voudrait bien le garder encore pour 90 jours si le juge leur donne le feu vert. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, les peuples autochtones veulent plus de considération et s'insurgent contre la disparition progressive de leur langue. C'est ce qui ressort d'une recherche réalisée par la société civile dans deux régions du pays. Les résultats de cette recherche ont été présentés ce jour à Yaoundé, à la veille de la Journée internationale des peuples autochtones. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Juntap.
Les recherches menées dans une vingtaine de villages du Cameroun sont sans équivoque. L'identité des peuples autochtones est en voie de disparition, notamment dans les régions du sud et de l'est. Les Baka, les Bayili, les Bakula et les Bedan, des peuples autochtones de ces régions, sont concernés par la situation. Ils sont marginalisés, selon les résultats de l'étude menée par le RACOPI, le réseau Recherche Action Concertée PICMI. Romuald Ngono, coordonnateur de la recherche.
Lorsqu'on a par exemple un litige qui oppose un autochtone et un bantou, le litige est géré à la chefferie bantou. Et là, ça pose un problème. Mais la coutume qui est appliquée dans ce cas-là est la coutume bantou. Lorsqu'il y a même un litige entre Baka et Baka, la coutume qui est appliquée est la coutume bantou et la langue qui est utilisée est la langue bantou. Du simple point de vue moral, on ne peut pas juger quelqu'un avec la langue qu'il ne parle pas.
L'accès à l'éducation est aussi l'un des griefs soulevés par les peuples autochtones du Cameroun. Ceux-ci veulent, par exemple, des enseignements spécifiques en leur langue. Jean Toutoumou est issu du peuple autochtone Baka et conseiller municipal dans la commune de Mintom, dans la région du Sud.
Pour observer, réfléchir, agir. On commence la leçon en langue maternelle. Tu tiens la bouteille, tu demandes aux élèves comment s'appelle cet objet en Baka. Quand l'enfant quitte le centre préscolaire, il va à l'école primaire. Cet enfant sera le premier à donner son cahier parce qu'il a déjà travaillé en deux langues, en français, en baka.
Certes, de telles méthodes d'apprentissage existent au Cameroun, mais elles ne sont pas généralisées dans toutes les écoles que fréquentent les peuples autochtones qui se plaignent également de leur délocalisation suite au grand projet de développement. Jeanne Biloa, président de l'association Bakola, l'un des peuples autochtones du Cameroun.
Mais comme on dit que les peuples autochtones sont les premiers habitants du Cameroun, ils n'ont pas de terre. Nous étions installés en brousse. On a demandé que les peuples autochtones sortent de la forêt. Tant au village là, ce n'est pas notre terre. Donc on est obligé de s'adapter et de parler leur patois.
Une dizaine de structures gouvernementales ont assisté à la séance de restitution de la recherche parmi lesquels le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui lutte contre les mariages forcés, un phénomène décrié par les peuples autochtones. Chantal Hanjou, conseiller technique au ministère de la promotion de la femme et de la famille.
Par rapport au mariage, nous pensons qu'il faille encourager l'éducation non formelle. Si elles n'ont pas pu être à l'école classique, le ministère dispose des centres de promotion de la femme et de la famille qui doivent pouvoir promouvoir la formation.
Les Nations Unies ont en 2010 déclaré l'année 2019 année internationale des langues autochtones. Selon les experts, 95% des langues autochtones pourraient disparaître d'ici 2050 du fait notamment de l'éviction des peuples autochtones de leur terre d'origine. Yaoundé, Emmanuel Jultap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le changement climatique va affecter plus sévèrement que prévu beaucoup de pays africains, selon un nouveau rapport. À en croire les chercheurs, à cause de la croissance démographique, de plus en plus de personnes seront touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes sur tout le continent au cours des prochaines années. Irénée Herman Umbo nous fait le point de ce reportage de Henri Ridgway.
Nous sommes à Farana, un village de la Guinée en Afrique de l'Ouest. C'est la saison des pluies, mais le ciel est clair et il ne pleut pas. Une catastrophe pour des riziculteurs comme Koular Mohamed.
Le changement climatique a provoqué l'absence de pluie. Et donc, il est très difficile pour nous de cultiver. Nous ne pouvons plus faire nos semences de riz, justement à cause du manque de pluie.
Le rapport du Bureau météorologique britannique et de l'Université de Leeds indique dans le même temps que le changement climatique provoqué par la combustion des énergies fossiles entraînera le chaos en Afrique avec des épisodes de sécheresse et d'inondations soudaines. Elizabeth Kendon du Bureau météorologique britannique nous donne plus de précisions sur cette découverte.
Pour la première fois, nous avons utilisé un modèle climatique à très haute résolution, comparable à la résolution que nous utilisons habituellement pour les prévisions météorologiques. Ce modèle climatique est donc capable de représenter des processus à petite échelle dans l'atmosphère avec beaucoup plus de réalisme. Les processus à petite échelle sont vraiment importants pour la façon dont les extrêmes climatiques pourraient changer en Afrique.
Les auteurs du rapport avertissent également que des inondations soudaines comme celle en Ouganda l'année dernière et qui ont provoqué la mort des dizaines de personnes deviendront beaucoup plus courantes sur le continent. Elizabeth Kendon.
Nous avons constaté que ce type d'événement qui se déroule généralement tous les 30 ans à l'heure actuelle pourrait être aussi fréquent qu'une fois tous les 3 ou 4 ans. En termes d'extrême humidité et de fortes précipitations, nous constatons des changements sur l'ensemble du continent. En ce qui concerne les sécheresses extrêmes, nous constatons que les régions centrales et occidentales du continent sont touchées.
L'Organisation mondiale de la météorologie a signalé que le mois de juillet de 2019 avait connu des vagues de chaleur records dans le monde entier, un phénomène qui, selon l'organisation, a réécrit l'histoire du climat dans le monde. Les scientifiques estiment que les populations africaines seront probablement parmi les plus durement touchées par le changement climatique au cours des prochaines décennies, étant moins capables de faire face à ses conséquences.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Joselle Morissa. À la console, Joe Gill, Eric Manilakis a été avec vous à la présentation. Excellente soirée et une suite des programmes sur VOA Afrique. À très bientôt.
Afrique, les infos.